Vous écoutez
RMC. RMC Intégral Foot Coupe de France.
Thibaut Giangrande.
Salut tout le monde, comment ça va? Bienvenue sur RMC pour un nouveau magnifique dimanche de direct avec ce rendez-vous, le rendez-vous 17h30, la finale du championnat du monde de handball féminin France-Norvège à vivre ici sur RMC en intégralité avec Olivier Giraud, notre membre de la Dream Team, champion olympique notamment avec les Bleus, et notre envoyé spécial sur place en Espagne, Nicolas Paul Orsi, qu'on retrouvera d'ici quelques secondes. D'ici là, on poursuit notre énorme week-end Coupe de France. 32e de finale, les 32e qui continuent dans un instant. 5 matchs à vivre ensemble en direct avec notre membre de la Dream Team Foot. Il est là, Roland Courbis. Salut mon coach.
Salut les amis.
Bon, est-ce qu'on va avoir une grosse surprise, Roland? Parce que pour l'instant, bon, on n'a pas eu d'énormes surprises. Bon, si Cannes quand même.
Oui, quand même.
Allez, quand même, Cannes.
Dans l'émission des paris, on envisage Lyon-Duchère qui accroche Saint-Etienne.
Ce sera l'un des matchs que l'on va suivre ensemble à partir de 13h45. Et puis, c'est aussi une belle journée de ski. Les femmes à Val d'Isère, les hommes en Italie, avec un Français en tête après la première manche. La deuxième en direct dans une petite demi-heure. Et puis, le biathlon au Grand Bornand. Ça sent l'hiver, ça sent les vacances. Bienvenue sur RMC. Beau message, hein. D'ailleurs, vous êtes avec nous sur le hashtag RMC Live, l'appli RMC, le direct studio, on vit ensemble. Cet après-midi de sport, le direct, c'est justement le biathlon. Ça se passe au Grand Bornand devant plusieurs milliers de spectateurs. Salut Julien Richard.
Salut Thibaut, salut à toutes et à tous. 20 000 personnes massées, hein, le long de ce tracé ici au Grand Bornand, des drapeaux bleu, blanc, rouge partout. Grand ciel bleu et grand ciel bleu sur la piste également, puisqu'on a deux Françaises en tête, Julia Simon et Anaïs Chevalier-Boucher, qui arrive pour le troisième tir. La masse start, il y a quatre tirs, ouais. Deux tirs couchés, deux tirs debout. On en est donc au premier tir debout. Sans faute pour Julia Simon, hein, pour l'instant, 10 sur 10. Sans faute pour Anaïs Chevalier-Boucher sur ses deux premiers tirs. Une erreur, malheureusement, sur la première balle pour Julia Simon. Pour l'instant, c'est sans faute pour Anaïs Chevalier. Une faute pour la Russe Retsova. Une faute pour Anaïs Chevalier-Boucher qui va elle aussi aller tourner sur la note de pénalité. Derrière, Dorothea Wierer va prendre les commandes de cette mass start avec un sans faute sur ce troisième tir. On l'avait pas beaucoup vu depuis pas mal de temps, même l'italienne Dorothea Wierer. Elle revient en forme donc, puisqu'elle ressort en tête devant Lisa Teresa Hauser, et Julia Simon est ressortie de son anneau de pénalité en troisième position avec 13 secondes de retard sur l'italienne. Rien n'est joué. Anaïs Chevalier est sixième à 19 secondes.
Ouais, c'est un beau week-end pour l'instant pour le biathlon français. Cette épreuve de Coupe du Monde en France au Grand Bornand, sur la route des Jeux Olympiques qui viendront très vite, hein, après ces fêtes de fin d'année, puisque c'est le 4 février que les JO d'hiver auront lieu à Pékin. Donc on suit particulièrement nos Français au biathlon, et là nos Françaises. Julien, on te retrouve dans quelques instants. On suivra également à partir de 14h45 les hommes, la Masta masculine, avec notre numéro 1 au classement général, Quentin Fillon-Maillet, qui a ce fameux dossard jaune. 13h07, vous êtes sur RMC, l'intégrale foot, avec un programme exceptionnel, Roland, à partir de 13h45. 5 matchs en direct à vivre ensemble sur RMC. Donc, je salue.
5 surprises possibles.
Ah, possible. Je salue Florent Germain, Édouard G, Timothée Mémon, Romain Asselin et Aurélien Tiercin. Salut à tous. Bonne demi-heure, salut tout le monde. On va vivre ensemble ces rencontres, et on va vous retrouver dans un instant pour faire un tour des stades. Mais avant de suivre notre 32e de finale de Coupe de France, on va prendre la direction de l'Espagne. Décidément, cette fin d'année, on est partout sur RMC. Le championnat du monde de handball féminin, ça va être le grand moment de cette journée de sport à 17h30 entre la France et la Norvège. C'est une compétition que vous suivez depuis le début avec notre envoyé spécial Nicolas Paul Orsi. Salut Nico.
Salut les gars, salut à toutes et à tous.
Bon, on y est, Nicole, hein, on y est. La grande finale à 17h30. Dans quel état d'esprit sont nos Françaises? Tu les suis sur leur match au quotidien, tu es sur place. Est-ce qu'elles se sont fait peur avec cette victoire en demi-finale arrachée dans les dernières minutes face aux Danoises?
Alors oui, elles se sont fait peur, hein. La joueuse qui nous dira non, mais on était sereine, on était mené de 4 buts à la 40e dans un match où il y a très très peu de buts, on savait qu'on allait gagner. On l'a pas vu, on l'a pas croisé, bien sûr qu'elles ont douté. Je vous rappelle que dans cette demi-finale au scénario fou, elles ont pris pour la première fois la tête dans cette partie à 3 minutes 30 de la fin du match. Sinon, elles ont toujours été derrière les Danoises. C'est un véritable exploit qu'ont fait les Françaises. Maintenant, tu me demandais dans quel état d'esprit elles sont aujourd'hui. Eh ben, elles sont tout simplement à 60 minutes de réaliser quelque chose d'historique. Un doublé inédit, Jeux Olympiques, Championnat du Monde, 4 mois après le titre olympique. La France France est à 8 victoires en 8 matchs dans ce mondial. Jamais les Françaises n'avaient fait une aussi belle compétition, une compétition aussi solide. En plus, contre des adversaires, tout simplement les plus gros adversaires sur le papier possible, c'est-à-dire que si la France est championne du monde tout à l'heure, elle aura battu les meilleures nations du monde. Donc voilà. Vaincu. Et je serai toujours invaincu, c'est vrai. Mais c'est surtout coach, c'est surtout elle qui joue, hein, sur le terrain.
Nous, on est superstitieux aussi, hein, ça fait partie quand même de la passion.
Hein. Et Nico, hors antenne, Roland me parlait de cette stat, alors pas vérifiée par Opta, mais tu t'es vraiment invaincu aux commentaires de l'équipe de France?
Je vous confirme. Ouais. C'est la troisième compétition que je suis et les garçons étaient champions olympiques, les filles champions olympiques et là les filles sont en finale.
Ce qui est fou, coach, c'est que Nico Palorci donne tout avec le hand et après quand il retourne à Bordeaux où il est notre correspondant qui commente les matchs de foot, forcément il reste plus rien pour ces joueurs.
C'est ça le problème,
c'est clair.
Ça
peut se
l'équilibre.
Ça fait l'équilibre, mais pas dans le bon sens pour les Girondins. Nico, 17h30, les Norvégiennes en face, c'est la marche la plus haute, c'est les adversaires les plus durs là depuis ce début de ce mondial.
C'est la meilleure équipe du monde. C'est la meilleure équipe du monde avec la France, avec des joueuses qui jouent dans les meilleurs clubs du monde, avec cette vraie rivalité. C'était la finale de l'Euro il y a un an, on a perdu 2 buts contre elles en finale au Danemark. C'était l'affiche annoncée de la finale des Jeux Olympiques, mais les Norvégiennes se sont cassées les dents d'un petit but contre la Russie. Voilà, ça sera notre 6e finale mondiale contre les Norvégiennes dans toutes les compétitions internationales depuis 1999. C'est deux nations qui s'aiment beaucoup, avec des joueuses qui sont très amies, mais je peux vous dire que sur le terrain là, elles sont dans le même hôtel à Barcelone, elles s'évitent, elles ne se parlent pas depuis 4-5 jours parce qu'il y a ce vrai parfum de revanche. Donc ça va être un énorme match tout à l'heure à 17h30.
Et ce sera à vivre en intégralité sur RMC avec toi Nico depuis l'Espagne avec Olivier Giraud, notre membre de la Dream Team. On te retrouve à 17h30 et même un
à tout à l'heure.
On va continuer de prendre l'ambiance avec toi en Espagne, Nicolas. À tout à l'heure, 13h11, l'intégrale Foot Coupe de France sur RMC à 13h45. La Coupe reprend ses droits. 5 matchs à vivre en direct sur RMC avec Roland Courbis et avec Edouard G qui se trouve au stade de la Duchère-Valmont. C'est à Lyon, dans le quartier de la Duchère, pour ce match entre Lyon-La Duchère, club de National 2 et Saint-Etienne. Salut Edouard.
Salut Thibaut, bonjour à tous. Salut coach.
La grande première de Pascal Duprat contre une équipe. Edouard, c'est vrai que quand on dit La Duchère, c'est un club de National 2 simplement, mais c'est un nom qu'on a l'habitude d'entendre à cette période de l'année, début janvier également. Un habitué de la Coupe de France, hein, Lyon-La Duchère.
Oui, il y a beaucoup d'habitués. Déjà, le club, en 99, c'était face à Nîmes. En 2000, face à Nice, pardon. En 99, Nîmes. En 2000, il y a eu aussi Toulouse et Strasbourg, 32e et 16e de finale en 2006. Et puis, plus récemment, Nîmes à nouveau, en 2019, sur cette pelouse. Donc, le club est habitué. L'entraîneur, Nicolas Lebelec, est habitué. C'est son 9e passage en 32e de finale. 3 en tant que joueur, 5 en tant qu'entraîneur. Et donc la première avec la Duchère. Et puis aussi, il y a deux joueurs qui sont des habitués de ces 32e de finale, messieurs. Alors, Brian Wabidje, ça vous dit peut-être pas grand-chose, mais il y a 2 ans, c'est lui qui avait marqué le premier but de la victoire d'Andrézieux face à Marseille en 32e de finale. C'était à Geoffroy Guichard. Lui, le Lyonnais, il éliminait Marseille, mais surtout, il marquait un but à Geoffroy Guichard. C'est un souvenir forcément heureux dans sa tête pour Brian Wabidje, donc qui est au milieu de terrain de cette équipe. Et puis il y en a un autre, Ashley Mock. Lui, il a fait les beaux jours l'année dernière du GFA Rumilly-Vallières. Vous vous souvenez de ce petit poussé qui est allé en demi-finale, cher au président Chabert et François Baudet. Et bien ben voilà, lui l'année dernière, il a marqué beaucoup de buts. Il a échoué en demi-finale face à Monaco 5-1. Pour lui aussi, c'est un habitué des 32e, parce qu'il y avait eu, bien évidemment, avec Rumilly l'année dernière, même si c'était une situation un petit peu particulière, hein, la Coupe de France Covid l'année dernière, mais il avait aussi joué avec Angoulême et perdu contre Strasbourg il y a quelques années de cela. Ben non, en fait c'est le troisième 32e de finale de suite pour lui. 2019, 2020, 2021, et voilà. Et lui, il ne veut pas perdre face à une Ligue 1 et donc il ne veut pas perdre face à Saint-Etienne.
Dans un instant on revient avec toi et on va entendre l'analyse de coach, mais le direct sur RMC, c'est également le biathlon au Grand Bornand avec cette épreuve de Coupe du Monde, la Master féminine Julia Richard. Pogacar, moment décisif, le dernier tir debout.
Allez, c'est le Money Time, le dernier tour avec le dernier tir avec Dorothea Virard qui s'est présenté en tête. Julia Simon en deuxième position et Anaïs Chevalier-Boucher était également dans les skis. Une erreur pour Dorothea Virard, une erreur pour Julia Simon et également deux erreurs pour Anaïs Chevalier-Boucher. Aïe. On va voir la sortie du tour d'un autre pénalité, mais tout le monde a commis des erreurs sur ce dernier tir. Il y avait évidemment beaucoup de tension, beaucoup de fatigue aussi dans les cannes là de ces jeunes filles qui terminent le premier bloc de cette Coupe du Monde, de cette saison de Coupe du Monde. On va regarder et attendre la sortie de la note pénalité pour voir qui va ressortir en tête, mais il me semble que c'est la Tchèque Slilovova qui sort en première position. Julia Simon est à 2 secondes de la sprint, tête là. De course, ça va être ultra serré. Elles sont 6 à être ressorties en 10 secondes et même 7 si on compte Roiseland, la Norvégienne qui est très très en forme et qui est à 12 secondes. Dernier tour avec une incertitude complète pour savoir qui va s'imposer sur cette bastarde, mais une Française est dans le coup, Julia Simon, qui semble très forte pour les sprints.
Ça va se finir au sprint, ça va jeter le ski sur la ligne d'arrivée et ça va être à vivre dans un instant en direct sur RMC à 13h15. Retour sur la Coupe de France, juste Edouard G à La Duchère pour ce Lyon La Duchère Saint-Etienne. Parle-nous rapidement en 10 secondes la compo stéphanoise. Est-ce que Pascal Duprat pour sa première a tout changé? Qu'est-ce qu'il a mis là aujourd'hui?
Non, il a fait un 4-4-2 normalement avec Jean-Philippe Crasso et Wabi Kazri devant. Il y avait une incertitude derrière entre So et Mickaël Nadé. Finalement, il titularise Mickaël Nadé donc pour cette équipe avec la première, pas la première, mais puisque Étienne Green est blessé, c'est Stéphane Bajic qui est dans les cages. Lui, il va essayer de gagner son premier match en pro.
Roland, pas évident, Duprat, c'est traquenard un petit peu là pour un débuté ou finalement c'est bien de débuter comme ça par un petit match de Coupe de France?
Je crois que, bon, premièrement, il n'y a pas le choix. Deuxièmement, on sait très bien que le match important, on en parlait ce matin dans l'émission des Paris, c'est le mercredi. Match contre Nantes mercredi, ouais. Et on est déjà dimanche. Donc c'est sûr que pour le moral du vestiaire, une qualification serait une bonne chose. Mais une élimination après un bon match, surtout pas de blessés, ça serait un calendrier allégé pour atteindre l'objectif qui est quand même de se maintenir à 20 journées de la fin, ce qui pour moi me paraît fort possible.
C'est chez toi, Edouard, cette ambiance là qu'on entend à la Duchère,
exactement,
le speaker,
ouais.
Il y a combien de monde dans ce stade?
Il va y avoir 3-4 000, les tribunes peuvent contenir 5 700 personnes pour être précis. On va plutôt être près des 4 000 personnes, ce qui est déjà bien pour cette rencontre. Et il y aura du beau monde.
À tout à l'heure, Edouard, Lyon, La Duchère, Saint-Etienne, coup d'envoi 13h45 à cette horaire-là. Ce sera vite sur RMC. Il y aura 4 autres matchs, dont le Red Star qui va recevoir à Saint-Ouen au stade Bauer. L'AS Monaco, ce sera commenté par Timothée Mémon. Salut Timothée.
Bonjour messieurs, bonjour à tous.
Tiens, on va attaquer aussi par l'ambiance. Il y a du monde à Bauer, plein, non?
Il y a du monde à Bauer, ce sera plein, guichet fermé pour cette rencontre. Ça veut dire 2650 personnes forcément, parce qu'il n'y a qu'une seule tribune à Bauer actuellement. Celle qui est en face de moi est en train, celle qui est côté Paris pour ainsi dire, est en train d'être rénovée. Et puis celle qui est derrière la cage, impossible d'accès pour le moment pour des questions de sécurité. 2650 personnes, et je peux vous dire que devant le stade Bauer, il y avait du monde pour essayer d'arracher une place, pourquoi pas au marché noir, ou peut-être une place restante, mais globalement c'était très compliqué.
Pour aller voir un grand Monaco ou pas, quelle équipe alignée par Kovac?
C'est pour aller voir un Monaco hybride, on va dire, parce qu'il n'y a pas tous les titulaires, mais il y a quand même une belle équipe mise en place avec Majeki dans la cage. Ça, c'est un remplacement par rapport à Nubels. La défense, ce sera Axel Disasi et Guillermo Maripane, Djibril Sidibé sur le côté droit, Ismaël Jacob sur le côté gauche. Il faut rappeler également qu'il y a des absents côté monégasque, avec notamment Aguilar qui est absent. Au milieu de terrain, on va retrouver Elliot Matazo associé à Aurélien Tchouaméni et Alexander Golovin, et puis devant Myron Boidou, Kevin Volland et Wissam Ben Yedder. Alors comment va se disposer cette équipe monégasque? En 4-4-2 avec Volland sur un côté, ça a déjà été essayé par Niko Kovac, ça n'a pas été une franche réussite. Un 4-4-2 avec Boidou sur un côté, pourquoi pas, pour utiliser sa vitesse, ou alors un 4-3-3 avec simplement Wissam Ben Yedder en pointe et Volland et Boidou relativement libre autour du capitaine monégasque.
Quand même un gros Monaco, coach, hein?
Oui, donc là, un gros Monaco. Bon, il y aurait peut-être eu un piège avec la pelouse synthétique qu'il y avait avant, mais maintenant c'est une pelouse normale, et en plus elle a l'air même assez belle, donc ça va diminuer les chances de surprise. Pour ce qui est du système de Monaco, je m'imagine plutôt Sidy Bé dans un rôle de troisième arrière central côté droit, un système qui marche souvent.
On va retourner dans un instant à Saint-Ouen, retrouver Timothée Mémon, parce qu'il y a également une belle histoire côté Red Star à vous raconter, mais on va tout de suite retourner au Grand Bornand sous le soleil du biathlon, la Coupe du Monde, la Master féminine. Bon, il y en a une, Hubert, qui a décidé de mettre une tannée au groupe.
Qui file vers le doublé, elle a gagné la poursuite hier, Elvira Heuberg, la petite sœur, Heuberg, et elle file vers la victoire sur cette Master, elle est énorme, elle est ressortie avec tout le monde du dernier tir et elle a dit bye bye à tout le monde dès les premiers mètres sur ce dernier tour de piste. Et derrière, c'est la grosse bagarre pour le podium. Elles sont encore 4 pour pourquoi pas accrocher une place sur le podium. Allez, avantage quand même pour Julia Simon et Retsova qui se sont un tout petit peu détachés. La française Julia Simon deuxième hier de la poursuite et la russe Retsova qui ont pris quelques mètres d'avance. On est vraiment dans les tout derniers mètres maintenant de cette mass-start, la première mass-start de la saison. Julia Simon retrouvée hier sur la poursuite après un début de saison catastrophique, cauchemardesque, notamment derrière la carabine. Aujourd'hui, c'est un 18 sur 20. Hier, c'était un 19 sur 20 au tir. Donc, ça reste une très belle performance. La dernière montée de cette Mastart avec Elvira Heuberg et sa combinaison jaune de la Suède et son dossard 2 sur le dos. Elle est deuxième du classement général de la Coupe du Monde. Et le sprint derrière qui commence à se lancer dans cette dernière difficulté. Faut être en tête de cette dernière bosse pour virer après dans la descente qui va aller tout droit vers la ligne d'arrivée. Et ça semble bien embarqué pour Julia Simon qui a basculé en tête de cette dernière difficulté et qui a décroché Retsova qui est derrière maintenant. Et Julia Simon, comme hier, va aller s'offrir une deuxième place. Elle lève les bras, elle a même le temps d'haranguer cette poule du Grand Bornand pour signer un deuxième podium en deux jours. La deuxième place une nouvelle fois, derrière une nouvelle fois Elvira Heuberg, la Suédoise. Le très beau week-end à domicile continue pour l'équipe de France de biathlon.
Allez, Heuberg, ça va poser un problème quand même au bout d'un moment. Je pense qu'on n'en est pas l'une, c'est l'autre.
Ouais. C'est toujours Roy Zeland, la Norvégienne, qui est leader du classement général de la Coupe du Monde, mais elle doit peut-être se faire des cheveux blancs en regardant cette toute jeune biathlète de 22 ans foncer derrière.
Merci beaucoup Julien. Ce week-end au Grand Bornand n'est pas terminé puisque après les femmes, place aux hommes à 14h45, la Master masculine, ce sera à vivre en direct sur RMC. 13h21 dans un instant. Est-ce qu'on retourne tout de suite au Stade Bauer? On y va dans un instant, on retrouve Timothée Mémon, 13h45 sur RMC avec Roland Courbis. 5 matchs des 32e de finale de Coupe de France à suivre, notamment Lyon, La Duchère, Saint-Etienne ou encore Marseille face au Canet Rocheville. Présentation, l'ambiance autour de ces matchs, c'est dans un instant sur RMC.
RMC Intégral Foot Coupe de France. RMC Intégral Foot Coupe de France.
Thibaut Giangrande.
Avec Roland Courbis, 13h23 dans 20 minutes, le coup d'envoi de 5 matchs des 32e de finale de Coupe de France. Y aura-t-il un troisième club de Ligue 1 dehors pour son entrée en lice après 3 et Lorient éliminé hier par Rennes? Tout va bien. On va suivre ça. Il y en a pas mal sur le pont à 13h45. On était à Bauer il y a quelques instants pour Monaco qui se déplace au Red Star. Il y aura également Lyon, La Duchère, Saint-Etienne. Et puis au Stade Vélodrome, l'Olympique de Marseille reçoit un club de National 3, Canet Rocheville. Ce sera commenté sur RMC par Florent Germain. Salut Flo.
Salut Thibaut, salut à tous.
Salut Flo. Raconte-nous là.
Salut coach.
32e de finale au Vélodrome, 13h45. Déjà l'ambiance là au Vél, il y aura un peu de monde.
Écoute, on attend un peu plus de 20 000 personnes, entre 20 et 25 000, nous disait-on hier. Donc ça reste une très belle affluence, même si le virage nord sera fermé pour des raisons d'organisation. Donc la plupart des supporters, des groupes de supporters en tout cas, sont réunis dans le virage sud. On a un petit soleil sympa, un beau temps et des joueurs de National 3, donc du Canet Rocheville, qui sont arrivés les premiers sur la pelouse, là, habillés en vert dans leur tenue traditionnelle.
Portable à la main, on prend des photos du Vél.
Alors justement, j'ai demandé hier, j'ai eu un long échange avec l'entraîneur adjoint de l'équipe où je lui demandais s'il avait interdit ou pas les photos pour éviter, le fait, nous on est là en touriste et on est petit poussé, l'un des petits qui va se faire croquer par le gros. Il a été franc, il a dit écoute, juste au moment de l'entrée au vestiaire à 1h20 du coup d'envoi, on les laissera faire ce qu'ils ont envie de faire, des photos, pourquoi pas saluer quelques Marseillais, mais une fois le retour juste avant l'échauffement, on bascule dans le match. Et effectivement, quand ils sont descendus sur du bus et direction la pelouse, on les a vus après prendre quelques petites photos du vélodrome. Donc voilà, les yeux grands ouverts. Évidemment, c'est l'une des belles histoires de ces 32e de finale. D'ailleurs, elle se lisait sur les affiches, les prospectus distribués un peu partout dans les commerces du Canet Rocheville, avec cette inscription en route pour l'exploit ou le match du siècle, disait-on du côté du nord de Cannes. Hein, c'est une petite ville de 40 000 habitants située au nord de Cannes. Il y a 2500 personnes, 2500 à 3000 personnes qui sont venues, qui ont fait le déplacement. Des bus affrétés par la mairie. Ils ont même prévu le casse-croûte dans le package. Donc tout va bien, tout est prévu pour un match à 13h45. Ça a été un vrai psychodrame, on le rappelle, hein, parce que au départ, c'était le Canet Rocheville qui devait recevoir. C'était pas possible de le faire dans leur stade parce que non homologué. À Nice, parce qu'il y avait eu les violences entre Nice et l'OM. L'OM voulait pas le faire au Vélodrome. Finalement, ils ont accepté. Donc c'est un rêve éveillé qu'ils vivent, notamment un. Écoutez, c'est le gardien de cette équipe du Canet Rocheville, François Squarcioni. Son nom de code sur Twitter, c'est François Carasso, fan de Cédric Carasso. Il est en train de vivre un rêve, je pense, au pied du virage sud, parce que lui, il vient souvent en tant que spectateur, en tant que supporter de l'OM. Écoutez-le, Clément Brossard l'a rencontré. C'est un supporter du club phocéen qui va jouer contre son club de cœur tout à l'heure.
C'est vrai que d'habitude, dans ce stade, je m'y rends en tant que supporter. J'ai déjà été 3 fois cette saison. J'ai vécu de grands matchs comme titre de champion après la victoire contre Rennes, demi-finale de Coupe de l'UEFA avec la victoire contre Newcastle, le Marseille-Lyon avec le retour de Valbuena. J'ai été même voir la finale de l'Europa League entre Marseille et l'Atlético Madrid. Je pourrais vous en citer plein des matchs. Concernant le maillot, moi étant supporter de Marseille depuis des années et des années, étant en plus gardien de but, j'ai dit à mes coéquipiers, le maillot de Steve Mandanda, il n'y a personne qui touche, il est pour moi. Ouais, j'espère à la fin du match pouvoir échanger avec lui, et si je peux avoir le maillot, ça sera que du bonus.
Le message est passé. Ouais. Pas touche au maillot de Steve.
Et d'ailleurs, ce sera un maillot tout propre, nickel, Mandanda.
Ce sera un maillot.
Il y aura un peu de sueur.
Oui, il y aura de la sueur parce qu'on a les compos. Il est titulaire, Steve Mandanda. Okay. Il aura le numéro 1, puisque en coupe, vous savez que les numéros changent un petit peu. Mais ouais. Steve Mandanda dans le but. La compo marseillaise, la voici. Il y a quelques changements, mais écoutez, ça reste une très très belle équipe de haut niveau concoctée par Jorge Sampaoli. Mandanda dans le but. Défense à 3 avec Amavi, Alvaro et Balerdi. Donc on va dire que c'est surtout derrière que Sampaoli fait tourner. Lirola sur son côté droit, plutôt au milieu avec Gueye et Guendouzi, pareil au milieu de terrain, et le quatuor offensif là aussi qui a fière allure. Harit à droite, Conrad à gauche. On donne du temps de jeu à ceux qui n'en ont pas toujours en Ligue 1, mais Payet et Milik sont là, titularisés par Jorge Sampaoli. Donc ça nous donne vraiment une très très belle équipe pour cette Olympique de Marseille qui, on le sait, on ne va pas revenir sur les carquefous, etc.
André Zieux
laisse parfois de mauvaises surprises sur son passage et ses aventures en Coupe de France, comme on le disait dans
pas au Vélodrome.
Non, voilà, justement, comme on le disait dans le journal La Provence ce matin, de la bouche de Farid Tabet, le coach de cette équipe du Canet Rocheville, il disait, lui qui aime l'OM aussi, ça m'embêterait d'éliminer Marseille quand même, parce qu'il y a beaucoup de supporters de l'OM. Il y en a juste un qui n'est pas supporter, c'est l'intendant Frédéric Chauss, supporter du PSG, et le coach Farid Tabet lui avait dit, t'inquiète pas, grâce à la coupe, un jour je t'amènerai dans un vrai stade de foot. Et il lui a dit hier, tu vas voir, tu vas vivre ce coup-ci un vrai rêve dans un vrai stade de foot, à savoir le Vélodrome.
Le coup d'envoi, c'est dans un quart d'heure. Marseille face au Canet Rocheville, club de National 3.
C'est bien de revoir à ma ville.
Oui,
ouais, ça, effectivement. Ouais. Et puis revoir aussi Christian Lopez pour les anciens amoureux de l'épopée des Verts, qui est le directeur sportif de cette équipe.
Ça nous rajeunit.
La moustache est là.
Quand il était minime avant d'aller à Saint-Etienne, il était au Canet Rocheville. Moi, j'étais à l'OM. Et après, on était la charnière centrale des équipes de jeunes, des équipes de France, et notamment l'équipe de France junior. Donc je l'ai connu, on est de la même année.
Bon, justement, on peut l'entendre parce qu'il a été rencontré aussi rapidement par Clément Brossard, le directeur sportif du Canet Rocheville, qui nous raconte ce match très particulier, forcément historique pour cette équipe de National 3.
Je pense que oui, parce que d'abord, ils sont supporters de ce club mythique, et le fait de les rencontrer, et sur leur terrain en plus au Vélodrome, qui est un stade extraordinaire, il est sûr et certain que la pression va être d'autant plus forte. Fouler le stade Vélodrome sur une magnifique pelouse, contre une équipe dont tous les joueurs sont pratiquement supporters. Il faut quand même penser que depuis quelques saisons, l'Olympique de Marseille s'est fait éliminer par les équipes de National 3. Et bon, pourquoi pas nous, sur leur terrain. Bon, après, j'imagine le côté dramatique si l'OM venait qu'à se faire éliminer par un club de National 3 sur son terrain.
Christian Lopez, directeur sportif de ce Canet Rocheville, ancienne légende de Saint-Etienne, de l'équipe de France également, international français. Coach, t'es toujours en contact avec lui?
De temps en temps, on a toujours le petit coucou d'un ami commun. Donc, on ne s'est pas perdu de vue complètement.
Flo, on te retrouve dans un quart d'heure pour le coup d'envoi.
Oui, je te laisse, le Père Noël est sur la pelouse là. Il envoie des cadeaux, donc je vais descendre un petit peu en bas.
Va récupérer ça tout à l'heure, Florent. 13h30, 13h45, c'est le coup d'envoi de nos 5 matchs des 32e de finale de Coupe de France. Autre club de Ligue 1 qui devra se méfier parce que là, en plus, ce sera.
Pour le coup d'envoi ?
Ouais, pour le coup d'envoi, Flo. Ce sera Lens qui se déplace à Poitiers. Bonjour, Aurélien. Tiercin.
Bonjour.
Le complexe sportif Michel Amand, tu es sur place.
Oui, alors, la pépinière.
Il y a un peu de monde à la pépinière?
Oui, ce sera à guichet fermé, un petit peu moins de 5000 supporters. Il y a les ultra poids de vin qui sont là également. Alors c'est un petit peu dommage parce qu'une des deux tribunes latérales est en travaux, donc le stade aurait pu même supporter, mais là on restera à 5000 et ce n'est pas pour des raisons sanitaires, c'est donc pour des raisons de travaux. Un petit de.
Bon, alors Aurélien, on va te retrouver dans quelques instants. On a des bips, c'est insupportable par-dessus ta voix. Si vous nous suivez sur RMC, sur cette Coupe de France, vous savez que ça peut arriver de temps en temps. Le complexe sportif Michel Amand dont on parlait, il n'y a pas des commentateurs qui sont là tous les week-ends, donc ça peut arriver. On va essayer de régler le problème et on retrouvera Aurélien dans quelques instants. 13h31, vous êtes sur RMC, c'est l'intégral foot. Coupe de France, 13h45, le coup d'envoi de 5 matchs. On va aller à Bergerac retrouver Romain Asselin. Bergerac qui reçoit là aussi un club de Ligue 1. Romain, bonjour. Est-ce que tu es là au stade Gaston Simonet? Oui, on t'entend Romain. Est-ce qu'il y a du monde autour de toi?
Ouais, il y a du monde, 3000 personnes. C'est un petit stade, stade champêtre, dans une ville qui compte un peu moins de 30 000 habitants. Donc voilà, c'est un vrai match de Coupe de France. Là, pour le coup, on est dans un stade de rugby qui a connu 2 matchs de rugby le week-end dernier. Je vous laisse imaginer un peu l'état de la pelouse, même si la ville de Bergerac a missionné énormément d'agents techniques pour essayer de bichonner cette pelouse. Qui n'a pas vraiment l'habitude de recevoir des matchs de foot. C'est vrai que Bergerac joue à Campréal d'habitude, un stade encore plus petit, mais qui n'est pas homologué pour recevoir des matchs de Coupe de France. On les a vus jouer contre Lille à Libourne il y a de ça 3 ans. Ça leur avait pas réussi, alors que ici à Gaston Simonet, ils ont déjà sorti des gros clubs, en l'occurrence Lens ou encore Niort, voilà, des équipes de Ligue 2. Donc ils sont quand même habitués à se frotter à des équipes professionnelles sur cette pelouse-là.
Alors Romain, tu nous donneras les principales infos des compos, notamment côté Messin, mais avant il y a une histoire incroyable, Roland, autour du speaker de cette équipe de Bergerac. Romain, raconte-nous, c'est assez incroyable, improbable même.
Franchement, elle est belle celle-là, elle est belle. Ça fait au moins 2 heures qu'on l'entend là au micro. Il s'appelle Patrick de Lorraine. Alors jusqu'ici vous me direz, bon, quel est le rapport? Ok, Metz, Lorraine, ouais. C'est un nom de scène. C'est un animateur depuis une cinquantaine d'années. Et en fait c'est un féru du FC Metz, un supporter invétéré. Il a le FC Metz dans la peau. Et quand je vous dis ça, c'est pas seulement une image, hein. C'est vrai, hein. Il a des tatouages sur le ventre, sur le torse, sur le dos, avec des logos. Alors des anciens logos, hein, parce que ça fait quand même des dizaines d'années qu'il a les tatouages.
Ah oui.
Mais on peut y lire fier d'être Messin. Voilà, il a le FC Metz littéralement dans la peau, et c'est un match ultra particulier pour lui. Depuis le tirage au sort, il est un peu dans un autre monde. Il a du mal à dormir, il l'a même dit tout à l'heure au micro. C'est un peu le personnage central de cette affiche. Il n'est pas sur le terrain, il sera sur les à côté. Mais en tout cas, elle est belle cette histoire, franchement.
Mais comment le speaker de Bergerac peut être supporter de Metz?
Alors,
ou comment ce Messin est arrivé à Bergerac? Je ne sais pas dans quel sens il faut le prendre.
C'est plutôt ça, c'est plutôt ça. Il est supporter du FC Metz depuis tout petit. Et figurez-vous que sa femme est périgourdine. Donc ça fait 20 ans qu'il est à Bergerac, en tout cas dans le Périgord. Et c'est un animateur de supermarché, entre autres. Il a été repéré comme ça par le club de Bergerac, qui lui a dit il y a 4 saisons, bon, allez, viens faire un essai chez nous. un week-end sur deux. Et puis de fil en aiguille, la greffe a opéré. Et c'est maintenant le speaker officiel. Et jamais dans sa vie, il aurait pensé retrouver le FC Metz sur sa pelouse de Bergerac. Alors forcément, on lui a demandé, hein, et il a fallu se mouiller un petit peu. Eh bien, il sera pour Bergerac.
Ah, quand même.
Voilà. Ouais, pas de trahison.
Ah, il veut garder son job.
Pas de trahison. Hein,
Patrick, mais
c'est peut-être la seule fois de sa vie où il voudra que le FC Metz perde.
Bah ça, tiens, on verra ça en direct, oui. Romain, au moment de but de Metz ou Bergerac.
On peut quand même le croire qu'à moitié, non?
On tendra l'oreille, coach. On écoutera au moment où il annoncera le but, l'intonation, l'intensité dans sa voix. Rapidement, Romain, est-ce que Metz, c'est l'équipe de Ligue 1 où on a fait tourner du côté de Fred Antonetti?
Non. Il y avait un groupe quasiment au complet pour venir à Bergerac, si ce n'est les suspendus ou blessés, comme Dylan Brown ou encore Udol. Et finalement, on s'aperçoit que Frédéric Antonetti a fait énormément de tournées. Il y a 5 cadres, on va dire, dans ce 11 de départ, avec le capitaine Vincent Pajot, Pape Matarsar, Ibrahim Anian en pointe, et puis une défense centrale avec Jemerson et Kiki Kouyaté. Mais pour le reste, on n'a pas les deux meilleurs buteurs du club cette saison en Ligue 1, à savoir 111 et Depréville. Ils sont même pas sur la feuille de match. Et donc, on va avoir beaucoup de nouveaux visages, on va dire, en tout cas qu'on n'a pas beaucoup vu cette saison et qui vont avoir vraiment une chance à jouer. Je pense notamment à Amine Bassi en numéro 10 ou encore à Cheikh Tibiane Sabalé qui sera sur le front de l'attaque avec Nian.
Et petit blind test en direct, cette musique qu'on entendait Artois, tu l'as coach ou pas?
Oui, oui.
Europe, le final countdown. Dans 10 minutes, le coup d'envoi, le décompte de ce match. Romain, à tout à l'heure, Bergerac, club de National 2 face à la Ligue 1 Metz. Le coup d'envoi, c'est à 13h45. Est-ce qu'on a retrouvé Aurélien Tiercin à Poitiers pour le match entre Poitiers National 3 et Lens, club de Ligue 1? Aurélien, es-tu là?
Oui, normalement oui, si tu m'entends bien.
Là, pour l'instant, je t'entends.
Ah, parfait.
On va tenter, parle-nous de la compo lensoise justement.
Alors c'est encore une équipe qui ressemble à la Ligue 1. On a simplement Wilker Farinies, le gardien vénézuélien, qui remplace Jean-Louis Leca. Et devant, ça tourne un petit peu avec la titularisation notamment de Corentin Jean aux côtés de Florian Sotoka et d'Ignatius Ganago. Mais au milieu, on retrouve Seko Fofana et Cheikh Doucouré, Jonathan Klos et bien le piston droit Massadio Aïdara est à gauche. Et en défense centrale, Kevin Danso et Facundo Medina, habituels titulaires, sont là. Christopher Wu fait souffler un petit peu Jonathan Gradit. Mais voilà, ça reste une belle équipe de Lens qui reste sur 5 matchs sans victoire en championnat, avec notamment le PSG qui les avait rejoints dans les dernières minutes. À Nantes, ils menaient 2-0 à la mi-temps, les Lensois. Ils ont finalement perdu 3-2, donc c'est certainement pas le moment de perdre encore un peu plus de confiance, parce qu'en plus, le Stade Poitevin est une équipe qui marche très très bien à domicile. Ils ont encore gagné 6-0 contre la Tartasse lors de la dernière journée de National 3. C'est une équipe qui est simplement 7e de son championnat, mais qui à domicile marque beaucoup beaucoup de buts.
S'ils ont mis 6-0 contre la Tartasse,
Roland, très joli nom d'équipe.
Ils se sont pris
ton analyse de cette compo lensoise aujourd'hui, coach?
Ah ben oui, c'est quand même une équipe qui doit tenir la route. Mais bon, on connaît Mademoiselle Coupe de France avec ses surprises et ses caprices. Donc on va suivre ça avec beaucoup d'attention. Dans l'émission de ce matin, on envisageait quand même que Lens pourrait se faire accrocher.
Ah, peut-être. Alors surtout que Aurélien, dans cette équipe Poitevine, il y a des joueurs qui ont une histoire avec leur adversaire du jour, avec Lens.
Exactement, Yanis Simohamed notamment, qui est un des piliers de l'équipe de Poitiers, qui aujourd'hui est titularisé latéral gauche mais qui peut également jouer dans l'axe. Et bien lui, ses plus belles années de footballeur, son rêve, ça a été d'aller à la Gaillette, d'être formé au Racing Club de Lens. Il y a joué 5 ans, il se rappelle notamment des derbies contre le LOSC, évidemment on en parlait 2, 3, 4 semaines avant le match. Il avait vraiment des étoiles plein les yeux, il avait plusieurs propositions, notamment Lyon ou le Stade Rennais. Il a choisi d'aller au Racing Club de Lens dans sa jeunesse. Malheureusement, il n'a pas passé le cut, comme on dit. Il était avec la génération Jeffrey Adélaïde, Willan Cyprien ou encore Benjamin Bourigeaud. Lui n'est pas passé professionnel, mais voilà, il est aujourd'hui un des cadres de cette équipe du Stade Poitevin et il aura envie de montrer que les Lensois se sont peut-être trompés, même si tout le monde a changé depuis dans le club. Et puis un petit mot aussi de Jordan Cuvier, qui a été formé par Franck Hez au centre de formation du Stade Rennais. Ça a été aussi un des personnages très importants de sa jeune carrière, puisque il aurait pu choisir lui aussi l'Olympique Lyonnais et il a choisi le Stade Rennais pour être avec Franck Hez.
Merci Aurélien. Dans 5 minutes, le coup d'envoi de Poitiers-Lens. 5 matchs de cette 32e de finale de Coupe de France qu'on va vivre en direct sur RMC. Je vous les récapitule. Marseille contre le Canet Rocheville, National 3. Lyon-La Duchère, National 2 contre Saint-Etienne. Le Red Star, National contre Monaco. Bergerac, National 2 face à Metz. Et Poitiers, National 3 contre Lens. Roland, 5 matchs. Elle est où la surprise cet après-midi?
Bref, du côté de Lyon-Duchère, je pense que ça va quand même être chaud.
Eh oui, contre Saint-Etienne, chaud. Et on espère que ça restera chaud, mais dans le... uniquement sur la pelouse. On en parlera avec Edouard dans quelques instants. Pour conclure sur cette Coupe de France, avant de continuer évidemment les matchs en direct, le groupe du Paris Saint-Germain est tombé, Roland. Le PSG qui affrontera Feni Aulnois ce soir à 21h10. Ce sera à Valenciennes. Le dernier match de cette 32e de finale de Coupe de France. Un groupe sans Lionel Messi, qui est laissé au repos, mais avec... Sergio Ramos, il est dans le groupe, peut-être la deuxième fois qu'on aura l'occasion de le voir avec le Paris Saint-Germain.
Ça, c'est bien.
Et puis, tiens, un petit message que je viens de recevoir, non pas sur le hashtag RMC Live, non pas sur le Direct Studio, l'appli RMC, mais sur WhatsApp. C'est Jeannot Rességuier qui m'envoie un message et qui commentera le PSG ce soir. Le Stade Poitevin, sachez que c'est le club du papa de Lionel Charbonnier, notre membre de la Dream Team, champion du monde 98. On vous embrasse, Jeannot et Lionel, qui nous écoutent sur la route de Valenciennes. 13h40, avant le foot et la Coupe de France, le direct cet après-midi, c'est également le ski. Et on espère vivre une belle journée de ski. Arnaud Souk qui est en Italie, Altabadia. Salut Arnaud.
Salut Thibaut, salut coach, salut à tous. Oui, on espère vivre une belle après-midi de ski. On a vécu une belle matinée en tout cas, puisque Mathieu Fèvre a signé le temps scratch ce matin de la première manche du slalom géant d'Altabadia sur la Grande Rissa ici dans les Dolomites. Donc il s'élancera tout à l'heure en dernier dans quelques dizaines de minutes. On aura également Thibaut Favreau dans quelques instants et Alexis Pinturo qui malheureusement n'a réalisé que le 9e temps de la première manche. Pour l'instant, c'est Patrick Feuerstein, l'Autrichien, qui est en tête.
Les passages des Français, ce sera à vivre dans quelques minutes en direct sur RMC. À tout à l'heure, Arnaud, 13h41. Ça c'est bon. Merci Alban qui réalise cette émission. On l'entendait tout à l'heure au complexe sportif Michel Hamon, un peu loin à Poitiers. Il nous l'a remis au propre sur RMC. Dans 3 minutes, c'est le décompte final avant le coup d'envoi de cette 32e de finale de Coupe de France. Ce sera à vivre sur RMC. Ne changez rien. On revient tout de suite.
RMC Intégral Foot Coupe de France. RMC Intégral Foot Coupe de France.
Thibaut Giangrande
avec Roland Courbis pour ce magnifique week-end, les 32e de finale de Coupe de France. On adore ça, c'est encore un tour avec l'entrée en liste des clubs de Ligue 1 où il y a des tout petits. Il y a 5 matchs où on a des petits, des amateurs contre des pros, et on va les vivre dans un instant, le coup d'envoi sur RMC. Et je vous rappelle qu'au milieu de cette Coupe de France, le grand moment de la journée, du week-end, de la semaine, on l'espère, c'est la finale du championnat du monde de handball à 17h30, France Norvège, à vivre en intégralité sur RMC avec Olivier Giraud. Dans une minute, le coup d'envoi de nos 5 matchs et on va parier tout de suite sur Red Star Monaco.
Winamax, les meilleures cotes.
C'est le moment de parier sur RMC avec Winamax.
Et avec Yoann Guillet, notre expert en paris sportif. Salut Yoann.
Salut Thibaut, salut coach, salut à tous.
Monaco, c'est quoi? C'est 1-0-1? C'est comment là?
Non, c'est 1-22. Ah, c'est même pas si nul que ça. 1-22, ouais. 6 le match nul, 10 la victoire du Red Star. Mais bon, les clubs de Ligue 1 ne font décidément que très peu tourner pour ces 32e de finale de Coupe de France. Et avec l'équipe présente sur le terrain, je ne vois pas Monaco sortir. Malgré tout, les monégasques sont fragiles défensivement. Et je vois bien le Red Star, poussé par son public, marquer au moins un but. Je vous propose donc de miser sur une victoire de l'Est Monaco et les deux équipes qui marquent, c'est coté à 2,65.
Roland.
Bah écoute, presque ça, mais je mettrais plutôt plus de 2,5 dans le match. Ce qui fait que le 2-1 et les deux équipes qui marquent pourraient être dedans. Mais je vois pas de surprise avec cette nouvelle pelouse. À une certaine époque, on pouvait penser qu'avec cette pelouse synthétique, qu'il puisse y avoir des surprises. Là, non, je le vois pas. Un bon match du Red Star, je le vois. Mais là, tu nous as donné la composition d'équipe de Monaco, elle est quand même énorme.
C'est coté à 1,80.
Merci beaucoup.
Winamax, les meilleures cotes.
C'est le moment de parier sur RMC avec Winamax. Jouer comporte des risques. Appelez le 09 74 75 13 13. Appel non surtaxé.
Il est 13h45 et ça part à l'instant sur nos 5 pelouses de Coupe de France. Les coups de sifflet. Et ben on va tout de suite aller, on en parlait, au Stade Bauer de Saint-Ouen. Retrouver Timothée Mémon, Red Star Monaco.
Et vous avez manqué l'entrée sur le terrain des deux équipes sur une version rock de You'll Never Walk Alone. Et le coup d'envoi va être un tout petit peu décalé, tout simplement parce qu'il y a un énorme fumigène vert qui vient d'être allumé et qui a un brouillard assez épais pour le moment sur la pelouse du du Stade Bauer, mais tout ça dans une très très bonne ambiance, je vous rassure. C'est très festif pour le moment. Ce seront les Monégasques qui auront le loisir de donner le coup d'envoi de cette rencontre dans quelques secondes. Monsieur Les Texiers prend un tout petit peu de temps.
Et You Never Walk Alone en rock, c'est bien ou pas, Timothée?
Écoute, moi je préfère la version, je préfère la version originale, étant un grand fan de Liverpool et de ce qui s'y passe dans le club. C'est parti en tout cas entre Monaco et le Red Star. À l'instant, ce sont les Monégasques qui vont avoir le premier ballon avec une équipe, on l'a dit, mixte, pas mal de titulaires habituels, notamment Tchouaméni, Ben Yedder ou Axel Disasi, face à une équipe du Red Star qui, souvenez-vous, l'année dernière avait réussi un joli parcours, était sorti en 8e face à l'OL.
À tout à l'heure, Timothée. La surprise de l'après-midi, Roland la voit peut-être à Lyon pour ce match entre Lyon, la Duchère, club de National 2 et Saint-Etienne. C'est parti, Edouard G.
Oui, c'est parti depuis 1 minute 30, toujours 0-0, mais le ballon monopolisé par les nouveaux joueurs de Pascal Duprat. C'est Madi Camara qui a le ballon avec Troco, puis Colodzezia, qu'on a déjà vu une première incursion de Wabi Kazri, mais au final la bonne défense de la Duchère sur le coup, ils étaient 3, ils ont empêché le Tunisien d'armer et de frapper. Bientôt 2 minutes de jeu, 0-0, avec du brouillard ici sur la colline qui domine Lyon dans le 9e arrondissement. Je veux parler de la Duchère, toujours 0-0, et le ballon qui est monopolisé depuis 1 minute 56 par les Verts.
C'est un rêve éveillé pour les joueurs du Canet Rocheville. La plupart sont fans de l'Olympique de Marseille. Ils sont au Vélodrome face à l'OM, Florent Germain.
Oui, 2 minutes 0-0, ils ont le ballon d'ailleurs.
Et ils sont tout en vert.
Et ils sont tout en vert face à une équipe d'Amiens presque. Enfin, en tout cas, le maillot gris et blanc comme ça, pour les puristes fans de l'OM. Ça va se plaindre sur les réseaux sociaux. Vous pouvez me croire. 2 minutes et 30 secondes. Oui, c'est un nouveau maillot Coupe de France pour l'Olympique de Marseille.
On espère qu'ils le verront quand même quelques tours. Sinon, c'est
oui. Oui, sinon, le coup marketing, il est un peu manqué, si tu veux. Si ça reste le maillot de l'élimination contre Canet-Rocheville en 32e au Vélodrome, c'est un flop. 0-0, 3 minutes de jeu. Et donc, belle équipe de l'OM, en tout cas sur le papier. Payet, Guendouzi, Milik. Et Guendouzi, justement, le ballon, il va servir Dimitri Payet pour décaler côté gauche Conrad de la Fuente. Appel de balle dans son dos de Jordan Amavi. Le 1-2, 1-2-3 avec Amavi qui va centrer. C'est une tête du défenseur Dylan Scordato qui, je pense, a donné quelques frayeurs quand même à son gardien François Squarcioni, parce que elle était plutôt dans le sens, justement, d'un but contre son camp.
Bah, il veut marquer au Vélodrome.
Ah ouais, imagine sur le CV, mais... à marquer au Vélodrome, bah, sans préciser pour qui. Allez, alors, le corner pour Payet, en retrait directement pour une volée d'Amin Harit. C'est pas très bien tiré, ce corner de la part de Payet. 0-0, 3 minutes et 30 secondes de jeu entre Marseillais et Canetan.
Roland, ton avis sur le maillot là, de l'OM, point de vue esthétique? Effectivement, effectivement, c'est Amiens. Hein.
Ouais, c'est sincèrement, alors, je dis pas le maillot, le short, ok, mais les chaussettes, une belle paire de chaussettes bleues. Ouais. Ça fait pas de mal à personne.
La direction la banlieue de Poitiers, où Poitiers Club de National 3 reçoit le Lens. C'est parti également, Aurélien Tiersin.
Oui, depuis 4 minutes, c'est le stade Michel Amand qui a déjà pu s'enflammer sur une contre-attaque finie par Christophe Fourmi. Frappe pied gauche, trop décroisé au premier poteau. Wilker Farignès était dessus. Les Lensois, qui le reste du temps, maîtrisent le jeu. D'ailleurs, il y a une toute petite interruption signifiée par monsieur Miguel Gori, l'arbitre, puisque des fumigènes ont été craqués par les Lensois. Et il fait très froid à Buxerolles, à côté de Poitiers. Et ça fait pas mal de fumée, de brouillard. On n'a pas vu le corner d'ailleurs de Jonathan Clauss. La magie de la Coupe de France, c'est aussi tous les gens massés devant les barrières. Je ne vois pas 2 poteaux de corner sur 4, mais on va s'en sortir, on va apprécier, on va kiffer cette Coupe de France, toujours 0-0 après 4 minutes et 45 secondes.
C'est ça, les 32e de finale, vous les suivez en direct sur RMC. Notre autre direct, c'est Bergerac, le club de National 2 qui reçoit le FC Metz. Romain Asselin.
Allez, 5e minute de jeu, 0-0 pour l'instant, mais un bon coup franc là pour Bergerac avec Hicham Mlab, le meneur de jeu de cette équipe périgourdine, qui va le taper à l'entrée de la surface. On est à côté gauche, oh, c'est bien tapé, mais ça va être dégagé par la défense messine qui a fait tourner. On le disait tout à l'heure, cette équipe du FC Metz, elle laissait pas mal de cadres hors de la feuille de match et même directement en Lorraine. Face enfin, à une équipe de Bergerac qui est leader de sa poule en National 2 et qui n'a plus perdu, messieurs, depuis 13 matchs. 11 victoires, 2 nuls. Ils n'ont plus perdu depuis début septembre. Ça nous pose un petit peu vraiment l'efficacité de cette équipe qui d'ailleurs n'a encaissé aucun but
en 5 tours de Coupe de France. Alors, forte affaire quand même pour le FC Metz qui avait été éliminé par une Nationale 2 il y a 2 ans.
Oh, le poteau lensois sur un coup franc de Jonathan Clance. Les Lensois toujours dans la surface de réparation. Le centre de Florian Sotoca contré par le Stade Poitevin, par le Cédric Jean-Étienne, le capitaine du Stade Poitevin. 6 minutes de jeu, toujours 0-0. Et la première énorme occasion pour les 100 et or. Le corner de la gauche tiré rapidement avec Sotoca dans la surface de réparation. La tête de Christopher Wu, elle passe au-dessus des cages de Paul Cattier. 0-0. Mais le Stade Poitevin a déjà eu très très chaud face au Racing Club de Lens.
À toute heure, Aurélien, on conclut à Bergerac. Bergerac, Metz. Romain-Selin.
Avec la possession en faveur des Metz, hein, on fait vraiment tourner. Hein. On repart avec la défense centrale, Jemerson, Kiki Kouyaté. Et pour l'instant, il n'y a pas beaucoup de rythme dans cette rencontre, si ce n'est les joueurs de Bergerac qui essayent sur le pressing de venir récupérer le ballon assez haut. 0-0 pour l'instant après 7 minutes de jeu.
Direction Lyon, le quartier de La Duchère, club de National 2 qui reçoit Saint-Etienne. Édouard.
Toujours 0-0, 6 minutes 30 de jeu, mais j'ai failli vous couper car quelle parade de Pierre Pop, le gardien de la Duchère, sur une reprise. Il était sur la ligne des 5m50, il s'était habilement placé dans le dos de la défense de la Duchère. Je veux. Non, c'est assez bizarre. Il n'y avait pas hors-jeu sur cette action. Le corner à suivre avec Pierre Pop encore une fois qui s'interpose. Et la reprise derrière de Zedou Youssouf, mais ça passe au-dessus. Donc Wabi Kazri sur cette magnifique passe signée Yvan Masson. Bien vraiment à la limite du hors-jeu.
Coup franc pour l'OM, monsieur.
Ouais.
0-0. Allez, c'est tiré par Payet au point de pénalty. La tête de Guendouzi, pourquoi pas, dégagé par les joueurs du Canet Rocheville. Petit cafouillage dans la surface. Et une nouvelle fois, le capitaine qui dégage les siens, Anthony Calatayud. 0-0, 7 minutes et 30 secondes de jeu entre Marseille et le Canet Rocheville.
C'est RMC Intégral Foot Spécial Coupe de France, les 32e de finale, 5 matchs en ce moment à vivre ensemble en direct, il y en aura d'autres à partir de 16h.
Oui, c'est trompé, Kevin Danson face à Farignes. Non, c'est sauvé sur la ligne, c'est incroyable, les défenseurs lensois qui s'embrouillent tous les deux, le ballon rebondit sur le poteau, ils ont fait n'importe quoi les lensois, mais ils s'en sortent absolument miraculeusement. On en reste à 0-0 entre le Stade Poitevin et le Racing Club de Lens. Après 8 minutes de jeu, déjà un poteau de chaque côté.
Ça démarre fort, mais toujours pas de but sur ce multiplex Coupe de France. 5 matchs en ce moment, je le disais, il y en aura à nouveau 1, 2, 3, 4 à 16h, d'autres à 18h20 et à 21h. Le Paris Saint-Germain affrontera le club de Felny-Aulnois. 13h53, on ira également au ski dans quelques instants, puisqu'un Français, Fèvre, a réalisé le meilleur temps de la première manche du géant à Altabadia. On retrouvera Arnaud Souk pour vivre en direct le passage de Fèvre et d'ailleurs d'Alexis Pinturo également. Direction le Stade Bauer à Saint-Ouen, Timothée Mémon. Le Red Star reçoit Monaco. Est-ce que les fumigènes se sont un peu dissipés?
Les fumigènes se sont dissipés. L'ambiance est belle à Bauer, comme souvent, avec des monégasques qui poussent, qui vont de l'avant avec un Myron Boisdou un petit peu brouillon. C'est aussi une habitude. Et cette équipe de Monaco qui évolue dans un 4-4-2 avec clairement Kevin Volland sur le côté gauche du milieu de terrain, Alexander Kolovin sur le côté droit quand l'équipe défend. Et puis quand l'équipe a le ballon, eh bien Volland a un peu plus de liberté. Il peut repiquer dans l'axe. En tout cas, on a vu une tentative de frappe côté monégasque et une incursion de la part des joueurs du Red Star dans la surface de réparation avec une tentative de frappe de Moussaguel.
Quelle position ?
Myron Boisdou est en pointe. Myron Boisdou est en pointe aux côtés de Wissam Ben Yedder. Voilà, c'est un 4-4-2. On va dire c'est un 4-4-2 à plat quand Monaco n'a pas le ballon. Et c'est un 4-4-2 qui peut se transformer en losange avec Volland en numéro 10 quand ils ont la balle.
Okay. Est-ce que, alors Habib Bey, hein, entraîneur du Red Star, on le rappelle, est-ce qu'il a titularisé Cher Endoy, qu'on connaît bien également, qu'on a bien connu en Ligue 1, Timothée?
Oui, c'est une des belles histoires évidemment de la Coupe de France. C'est l'occasion de revoir des joueurs comme Cher Endoy, effectivement, qui est titulaire au milieu de terrain, titulaire et capitaine, lui qui avait joué une finale de Coupe de France. Souvenez-vous, c'était avec Angers, et puis c'est vrai que c'était devenu une personnalité attachante de la Ligue 1, Cher Endoy. Extrêmement respectueux, extrêmement croyant également. Eh bien, après être passé par l'Angleterre, par Birmingham notamment, il est revenu à Angers et aujourd'hui il revient au niveau national, le niveau qui l'avait permis de le découvrir. C'était alors à Épinal puis à Créteil. Il est de retour donc à ce niveau pour le plaisir, a-t-on la sensation. En tout cas, il retrouve des couleurs et il est tout heureux de jouer dans cette équipe. Il a déjà marqué 4 buts depuis le début de la saison. Cheikh Ndoye déjà devenu un élément incontournable et ça s'est senti sur le seul corner de la rencontre qui a été frappé par les joueurs du Red Star. On cherche évidemment et toujours la tête de Cheikh Ndoye comme au bon vieux temps.
Toujours 0-0 entre le Red Star et Monaco. Le premier but de l'après-midi sera-t-il marqué Roland à Poitiers? Poitiers reçoit Lens et Aurélien Tiercin s'est déjà excité 2-3 fois. Aurélien,
on n'était vraiment pas loin. 10 minutes minutes et 30 secondes de jeu, 0-0. Les Lensois qui ont tapé le poteau après une bonne tête suite à un coup franc de Jonathan Clauss et sur une erreur de Kevin Danso, le défenseur lensois. Jordan Cuvier avait cru tromper Wilker Farignès. Bon retour des défenseurs sans erreur, mais Danso et Medina s'en sont très très bien sortis. Le ballon qui rebondit sur les deux joueurs, puis sur le poteau du gardien vénézuélien. C'est compliqué quand même dans la relance pour le Racing Club. Là, les joueurs de Poitiers sont vraiment intéressants et c'est une vraie ambiance de Coupe de France parce qu'à chaque action, encore Maxillaire là qui peut décaler. Jordan Cuvier au centre, il y a Christopher Fourmi. Bon retour de Christopher Wu, le défenseur lensois. Gros tacle sur le grand attaquant, le numéro 9 du Stade Poitvin, qui s'en sort là. Très très bon physique. Ouais, il est très très bon, Jordan Cuvier. Il arrive à s'en sortir, mais le décalage pour Dylan Solona et l'intervention de Kevin Danso, le défenseur autrichien du Racing Club de Lens. C'est pas encore le piège pour les coéquipiers de Seko Fofana, mais on sent pas une grande confiance forcément, Roland, pour cette équipe qui reste sur 5 matchs sans victoire en Ligue 1. On les a beaucoup encensés en début de saison, mais ça va moins bien à Lens en ce moment. 0-0, 11 minutes 40.
Roland, non, t'avais rien d'autre à ajouter?
Non, cette équipe de Lens qui est dans une période où, bon, allez, les vacances de Noël tombent vraiment au bon moment. C'est sûr que ça ne serait pas bon pour le moral, puisque c'est un petit peu l'espoir de Lens d'aller au bout pour les supporters, pour tout le monde, au bout de cette Coupe de France, et pourquoi pas une finale. Donc c'est sûr que ça serait une énorme déception.
Ce sont les 32e de finale de cette Coupe de France. On les vit ensemble, évidemment. C'est un week-end spécial sur RMC. 5 matchs en ce moment. On va faire un tour temps et score sur nos directs avant d'aller au ski. Le temps, le score au Vélodrome. Marseille, Canet-Rocheville, Florent Germain.
12 minutes de jeu. Rien de marqué ici à Marseille. 0-0 entre l'OM et le Canet-Rocheville.
Lyon, là, quand même.
Une occasion, un lob de Milik et puis le corner tout à l'heure qu'on vous a raconté avec un petit cafouillage, mais pas grand chose. Si ce n'est Payet, peut-être maintenant, non. Il vient en retrait vers Pape Gueye. C'est un Marseille assez prudent pour le moment. 0-0.
Lyon, la Duchère, Saint-Etienne, Edouard.
Eh ben, tout pareil que Flo, 0-0, 12 minutes de jeu entre Lyon-la-Duchère et Saint-Etienne.
Red Star Monaco, Timothée Mémon.
11 minutes de jeu, pour le moment 0-0 et un très bon coup franc pour Jason Trey à l'entrée de la surface de réparation, le joueur du Red Star.
Bergerac, Metz, Romain Asselin, et c'est 2 secondes de décalage.
Et aucun but non plus à la 13e minute.
Eh oui, c'est la Coupe de France, Poitiers-Lens, Aurélien.
Bon, attention, peut-être cette frappe. La frappe de Yad, l'attaquant messin qui passe juste au-dessus du cadre des buts de Pierre Laborde. Première véritable occasion pour le FC Metz dans cette partie. Il a mal ajusté sa frappe, il était à l'entrée de la surface. 0-0 à la 14e.
Je pense qu'Antonetti va commencer à préparer ses phrases.
Pour la mi-temps, il va se fâcher, tu penses?
Pour Niagne.
Merci Romain, à tout à l'heure. Poitiers-Lens donc, Aurélien Tiersin.
0-0, 13 minutes, 30 secondes de jeu, corner à venir pour le Stade Poitvin. Les défenseurs lensois sont catastrophiques dans la relance et dans la sérénité. Enfin, il n'y en a pas, il n'y a pas de sérénité. 0-0, 13 minutes 40.
Vous êtes sur RMC, 13h58, l'intégrale Foot Coupe de France continue avec ses affiches des 32e de finale. Dans un instant, retour sur tous nos stades et direction les pistes de ski. Retrouver Arnaud Souk avec Alta Badia, la deuxième manche du géant, peut-être une victoire française. D'ici là, c'est Alexis Pinturo. Il était 9e après la première manche. On va vivre ensemble ça. Descente en géant dans un instant. A tout de suite sur RMC.
RMC Intégral Foot Coupe de France.